Et donc, la prolifération des armes à feu, on le sait, on doit s'en préoccuper. C'est un cas de sécurité publique et on en parle tout de suite avec donc cette série. Il est le journaliste derrière L'arme du crime, cette série documentaire dont je faisais référence en prémisse. C'est Simon Coutu avec nous. Bonjour.
Salut.
Pourquoi ce sujet vous a intéressé?
Ben parce que c'est un sujet qui est malheureusement trop d'actualité, qui est dans l'air du temps. Clairement, il y a un défi journalistique là, dans le sens que c'est des accès qui sont difficiles à négocier. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de familles, de gens qui sont impactés, sans mauvais jeu de mots, là, par cette question-là, qui cherchent des réponses.
Est-ce que c'est nous ou on a l'impression qu'il y a un plus grand accès aux armes à feu qu'avant?
Il y a clairement un plus grand accès aux armes à feu qu'auparavant. Autant mes sources criminelles que policières me le confirment. Il y a eu aussi une augmentation des événements liés aux armes à feu au courant des dernières années, un sommet là, depuis les années 90. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années 90, notamment en raison de la guerre des motards, ça tirait pas mal dans les rues de Montréal. Cela dit, c'est comme si l'accès aux armes à feu s'est démocratisé. Pas mal tout le monde peut s'en procurer s'il le désire. Donc, c'est ça qui est inquiétant.
Oui.
Faut noter quand même qu'il y a une diminution là, des événements au courant de la dernière année, probablement liée à une série d'arrestations puis à bon, des financements majeurs là, en termes de répression au niveau de la violence armée. Mais oui, effectivement, il y a plus d'armes à feu dans les rues de Montréal.
Mmh. Ben, vous avez rencontré d'ailleurs quelqu'un qui, lui, détient beaucoup d'armes à feu.
Ouais.
Puis il disait littéralement, je le paraphrase tout un peu rapide, là, librement, mais c'était une question de sécurité, en fait, puis que tous ceux qui en ont maintenant, il y en a aussi qui en ont, comme si c'était comme une sorte de jouet aussi pour eux, là, ou presque. Là.
Clairement, des gens qui s'en procurent pas parce qu'ils sont nécessairement...
Liés
au crime organisé, mais strictement par simple défense, autodéfense. Les gens on se procurent ça par besoin de sécurité. C'est un cycle qui est un peu infernal parce que bon, c'est un peu ce à quoi on assiste depuis la création des États-Unis, mais les gens se procurent des armes pour se protéger. Donc, puis le problème, c'est que si quelqu'un possède une arme, les chances que cette personne-là l'utilise sont décuplées, tu sais. Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule, tu sais, dans le sens que... Ce qu'on remarque, justement, c'est que ce ne sont pas nécessairement que les têtes dirigeantes du crime qui possèdent ces armes-là. Il y a comme une démocratisation, comme je le disais.
Ils se sont fait un peu, prendre à contre-pied les forces policières.
Oui. Puis j'avoue que c'est un témoignage de la part d'un haut gradé policier qu'on entend assez rarement, ce genre d'humilité là, de nous dire écoute, on l'a pas vu venir. Je pense que la pandémie, le fait que les gens étaient à l'intérieur, que ça se passait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi que ça se passait à l'extérieur du crime organisé traditionnel, puis même j'ai envie de dire de la dynamique des gangs de rue traditionnelles, dans le sens que ces jeunes criminels-là ne répondent pas à des têtes dirigeantes, à des OG, là, tu sais, c'est pas ça, tu sais, et il y a plus d'argent. Tout le monde, ce qu'on me dit, c'est que les gens ont un peu plus d'argent. Encore, c'est aussi une démocratisation de la richesse, entre guillemets, dans la rue, dans le sens que certains jeunes vont avoir recours à la fraude bancaire, au vol de voitures. Et ce qui fait en sorte que ces gens-là ont de l'argent, puis tu sais, une arme à feu, moi on me dit que c'est entre 3 000 $ à 5 000 $, tu sais, je veux dire, c'est le prix de deux laptops, là, tu sais,
oui.
C'est beaucoup d'argent, 5 000 $, là, pour la plupart des gens, mais en même temps, ça demeure quelque chose qui est accessible.
Oui, puis on voit que la frontière canado-américaine est une vraie passoire, surtout vous êtes allé d'ailleurs sur les lieux là, lors du premier épisode à Kwassassiné, là, qui est une réserve, puis on voit que le territoire est immense à couvrir, puis qu'il y a peu d'effectifs policiers aussi pour le faire, pour assurer, disons, une vigie. Là.
La vérité, c'est qu'il faudrait mettre un individu à chaque mètre de la frontière pour être capable de la contrôler, puis même là, tu sais, donc... Il y a la poste aussi, il y a les impressions en 3D qui arrivent de plus en plus. C'est un peu dommage qu'on mette ça sur le dos ouais. de la communauté Mohawk. Alors,
c'est vrai.
Elle se retrouve avec une juridiction, comme vous le mentionnez, qui est comme qui est impossible à contrôler. Et puis surtout avec les moyens que ces gens-là ont. Et ils se retrouvent un peu avec cette patate chaude-là. C'est un problème géographique. Là.
Oui.
De frontières qu'ils n'ont pas, eux, tracées.
Vous rencontrez quelqu'un qui a des armes, qui vous les montre. Je comprends qu'il n'y a pas de balles, mais quand même, est-ce que vous avez eu peur un moment donné pour votre sécurité?
Pas vraiment, sachant que... c'est une personne avec qui j'ai échangé pas mal avant qu'on me pèse sur le bouton enregistrement sur la caméra, dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui me fait confiance, à qui j'ai confiance aussi, dans le sens que c'est une source, un contact. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus à perdre que moi à venir devant la caméra. Ensuite, moi, ce qui me stressait ou ce qui m'inquiétait un peu plus, c'est que notre rencontre fasse en sorte que cette personne-là soit inquiétée éventuellement par les autorités policières.
En tout cas, c'est un travail très étoffé pour ce que j'ai pu voir, en tout cas, et je me promets de continuer le visionnement. Ça débarque dès le 22 décembre sur Tout.tv. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci, salut!